l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas dans notre offre de transport, au-delà de nos métros, de nos tramways, de nos bus, etc., de nos vélos, de nos vélos et compagnie, est-ce qu'il n'y a pas aussi à développer une offre d'autopartage, une offre de bout à bout, une offre, on en parlera tout à l'heure, de cohérente de mise à disposition de véhicules pour les livraisons de petits matériels, etc. Bref, cette réflexion-là, elle existe bien sûr dans toutes les communautés urbaines et dans toutes les grandes villes en général en France. Et c'est vrai que très vite, on s'est heurté à une difficulté parce que au-delà de la prospective, on dit, mais comment on fait demain là? Si on veut le faire demain, comment on va s'y prendre, quoi, hein? Et la première difficulté à laquelle on se confronte, c'est de se dire, bon, on sait bien si on veut faire des véhicules, les mettre à disposition, etc. Mais au moins, il faudrait qu'au minimum, ils ne viennent pas perturber les émissions de CO2 de notre planète. Donc, première idée, et c'est là-dessus qu'on s'est lancé, sur l'idée de faire émerger, enfin essayer de voir s'il existe, en tout cas aujourd'hui plus exactement, une offre de véhicules permettant d'envisager de les utiliser de façon plus fréquente, mais sans forcément émettre du CO2. Ça, c'est une première étape qui me semble nécessaire de mener et de voir comment on peut faire émerger une offre de véhicules propres qui tarde un petit peu à venir. Deuxième idée, c'est voir comment ça s'insère ou ça ne s'insère pas, cette offre, dans l'offre de transport public. Est-ce que c'est un truc qui va se développer à côté, en même temps, dedans, etc. Et puis, troisième étape, si la mayonnaise prend, si ces véhicules-là existent, si on arrive à l'insérer, très certainement le marché fera que, individuellement du coup, indépendamment des offres publiques qui pourront éventuellement booster un petit peu les choses, eh bien, chacun d'entre nous, on aura peut-être envie, on aura peut-être envie d'acquérir ce type, si on en a les moyens d'ailleurs, d'acquérir ce type de véhicule individuel. Et donc, ça va forcément amener à réfléchir et éventuellement bouleverser la façon dont on structure même la vie, puisque enfin, je pense que ça a été dit ce matin, mais elle est quand même encore aujourd'hui très marquée par la présence de la voiture. Notre ville, même si quand on revient à Paris, quand il faut créer des lignes de bus, ce que ça engendre comme débat long et varié. Bon, donc, cette question-là est également une question importante, et la question de la responsabilité de l'action publique locale sur l'organisation de tout ça, elle est forcément importante. Alors, rapidement, parce que Muriel a un certain nombre de contraintes, donc il va falloir que je passe la parole rapidement. Nous, on s'est lancé sur la première partie, est-ce qu'il existe un marché, comment on peut faire ça? Très clairement, en 2008, on a fait une opération grandeur réelle, hein, émis un appel d'offres, 6 communautés urbaines dans un traitement d'achat, donc déjà ça c'est compliqué, ça c'est comme on disait tout à l'heure, et le cahier des charges, il était un cahier des charges de véhicules propres, on définissait l'usage, alors à l'époque c'était véhicules propres, on ne parlait pas de véhicules électriques, et dans le cahier des charges, on disait que ce qu'on allait mesurer, c'était la propreté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié de la notation qui était faite sur des courbes d'émissions de polluants. Enfin, moins il y avait d'émissions de polluants, plus la note était importante. Donc, c'était comme ça que c'était affiché. Une autre moitié de la notation était sur l'usage, hein, ses dimensions, son confort, etc. Et l'autre, c'était pas la moitié, c'était le quart. Et le dernier quart était sur le prix, mais là aussi, un prix, pas le prix d'achat, mais un prix d'usage sur une période de temps, un kilométrage de temps, une fréquence d'utilisation de temps, etc. Bon, très manifestement, on était peut-être trop tôt, peut-être que les choses n'étaient pas suffisamment lisibles. En tout cas, le marché était manifestement pas mature. En juin 2008, on a eu 36 sociétés qui ont retiré le dossier, mais une seule qui a répondu. Donc, ça a été rendu à feu de feu. Et donc, très vite, on avait déjà eu des contacts, d'ailleurs, assez informels avec la Poste, qui eux-mêmes avaient lancé une consultation, qui a mis un peu plus de bonheur que la nôtre. Et très vite, on s'est dit, mais voilà, faut pas qu'on continue de travailler sur ce point. Et on a répondu rapidement à l'appel de la Poste. Et du coup, je vais laisser Muriel nous en parler.
Le temps qu'Olivier charge. la modernisation du courrier à la poste, hein, et j'ai le titre en fait de directeur industriel, donc je m'occupe aussi bien des machines que des voitures, que des gros camions, que des TGV, que des avions. La poste, elle est en général pas vue comme elle pourrait mériter de l'être quand on la regarde un peu de l'intérieur, en tout cas de mon prisme à moi. Derrière le facteur Jacques Tati, il y a une logistique qu'on imagine pas souvent, mais qui est absolument colossale. On a 19 avions, 3 TGV, 400 semi-remorques. On déplace plus de 80 tonnes d'objets toutes les nuits. Voilà, c'est un petit miracle, mais c'est après tout à nous de le rendre simple. Et si ça marche sans qu'on se pose de questions, tant mieux. Mais on est un très gros chargeur et un très gros acteur de la logistique, que ce soit dans les villes ou dans le monde, on va dire, plus périurbain ou rural.
Pardonnez-moi, seulement 80 tonnes
toutes les nuits.
C'est pas beaucoup.
Non, ce que 80 tonnes, c'est sur le courrier urgent. Mais ça, c'est uniquement sur le courrier urgent dans nos avions.
Ah oui,
et en fait, on déplace 70 millions d'objets toutes les nuits. Donc, on peut. Tous les jours. Nos facteurs font 50 fois le tour de la Terre tous les jours. On relie 300 000. Non, c'est pas pour ça que vous pouvez arriver là. Vous voyez, il arrive justement à table. C'est un sujet dont on pourrait débattre parce que c'est très intéressant. Je ne sais pas si ça, enfin, certains d'entre vous y ont sans doute réfléchi. C'est très intéressant de voir le décalage qu'il y a, enfin, c'est le carré d'Averroes, hein, c'est classique, entre la qualité perçue et la qualité prestée. En fait, le courrier n'est jamais arrivé aussitôt et jamais arrivé autant dans les délais qu'aujourd'hui. Mais la perception qu'on en a côté destinataire du courrier, c'est justement pas ça. Et sans doute que la prestation que l'on fait est une prestation qui ne correspond pas à l'attente. Et vous avez tous les écarts entre l'attente, le perçu, le voulu. Mais on s'éloignerait un peu du sujet si on rentre là-dedans. Mais si un jour vous voulez qu'on en discute, en tout cas, moi, je suis prête à en discuter. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a dans la salle des hommes qui viennent ou des femmes qui viennent de l'industrie automobile? Non. Bon, je vais pouvoir y aller. je vous laisserai les supports, en fait. Hein. Donc, du coup, si je ne déroule pas tous les supports, j'ai malheureusement une contrainte de temps, effectivement, et je peux m'en excuser. Donc, je vous laisserai les supports si à un moment vous voulez vous y référer. Quelques idées qui expliquent la démarche et nos convictions. La première chose, c'est que ce ne sont pas les fabricants de bougies qui ont fabriqué l'électricité, ou qui ont fabriqué l'ampoule électrique. Et le problème que l'on a aujourd'hui avec le véhicule électrique ou le véhicule propre, et je rejoins ce que disait M. Bélanger tout à l'heure, c'est qu'il faut le penser autrement. Et une des grosses difficultés qu'on rencontre, c'est que nos constructeurs automobiles ont bien du mal à penser autrement. Dans la façon dont ils ont, je ne sais pas, recruté, formé, positionné ce qui était les éléments de valeur et ce qui fait la technologie et ce qui fait briller les yeux quand on achète une voiture, ils ont beaucoup de mal à rebattre les cartes et à voir les choses différemment. Et lorsque l'on a commencé, nous, la Poste, puisqu'en fait on a une très forte volonté d'industriel de rentrer sur du déplacement propre, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, hein, les déplacements c'est notre quotidien, on s'est trouvé face à zéro offre, zéro offre industrielle et beaucoup de mal à finalement trouver des acteurs. J'y reviendrai.
Je te propose un petit témoignage là-dessus. Il y a eu dans les suites du Grandeur, pendant le Grandeur, on a fait un comité opérationnel sur le véhicule auquel la culture a participé, les constructeurs étaient là. Et en fait, très clairement, on était dans une ambiance où on savait qu'il restait peut-être 50 millions d'euros pour la recherche sur les véhicules électriques, et c'était nos grands constructeurs qui se partageaient sur les projets déjà anciens, mais pas du tout dans une réflexion de ce que sera le véhicule de demain. Avec une complicité à l'époque, d'ailleurs, des fonctionnaires de l'État.
Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué pour eux, hein, parce que ça change complètement la façon dont ils lèvent la valeur sur la chaîne industriel, hein, mais complètement. C'est un véhicule électrique, c'est beaucoup plus simple en termes de mécanique qu'un véhicule thermique. Donc du coup, ça place la valeur sur des sujets qui sont la batterie et le moteur. Et au constructeur, il ne reste plus que la caisse. Hein. Avec la caisse, vous ne levez pas des marges phénoménales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on se met à parler de déplacement propre, et je suis aussi tout à fait... intéressant, on aurait pu en débattre avec Bélanger sur l'idée que c'est la mobilité et le chaînage de la mobilité qui va faire sens. Vous devez penser les choses autrement. Nous, ce qui nous intéresse dans un véhicule électrique, c'est qu'on repense complètement l'intérieur du véhicule aussi. Quand on va faire de l'autopartage, vous n'avez pas le même dessin du véhicule selon qu'il passe entre les mains de, je ne sais pas, 25, 30, 40 personnes dans la journée. Et nous, sur les véhicules utilitaires, c'est la même chose. Ce n'est pas toujours le même facteur qui va utiliser le véhicule. Et toutes ces choses-là, après tout, pourquoi on rentre dans une voiture en se contorsionnant? Pourquoi on ne rentre pas dans une voiture debout? Pourquoi dans une voiture, on est face à la route? Pourquoi, vous voyez, toutes ces choses-là que vous pouvez balayer, que vous pouvez regarder lorsque vous parlez d'un véhicule électrique, parce que vous mettez la motorisation à des endroits totalement différents de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec un thermique. C'est mettre à mal des années et des années de chaînes industrielles. C'est mettre à mal aussi des modèles de consommation, parce que vous basculez sur est-ce que je cherche à être propriétaire d'un véhicule, hein? Bélanger le disait tout à l'heure, ma voiture, ma femme, mon boulot, ma maison, tout ça, signe extérieur de richesse. Les jeunes aujourd'hui, ils ne consomment pas comme ça. Et ils ne consomment pas comme ça non plus du véhicule. Et ils ne consommeront pas comme ça du véhicule. La voiture aujourd'hui, y a, dans les années 70, plus elle était grosse, mieux c'était la voiture. Hein. Aujourd'hui, vous avez une grosse voiture, c'est un peu comme trop fumé. Hein. C'est plus du tout la même image. Or, on a quand même bâti des années et des années d'industrie automobile sur une image de marketing autour de la voiture, ma propriété et mon objet de mobilité personnelle. Voilà. Ça, c'est un énorme frein aujourd'hui dans le monde économique et dans le monde industriel. C'est un énorme frein à l'émergence du véhicule électrique. La deuxième chose...
Elle existe, la voiture du postier, là,
la voiture du postier, elle existe. Sauf que la voiture du postier, pour aujourd'hui, c'est d'abord une voiture thermique électrifiée. On n'en est pas aujourd'hui, pour le 2011, là, ce qui va sortir, à avoir repensé complètement l'habitacle et repensé complètement la morphologie de la voiture. Ça va être quelque chose qui relève de la voiture, une voiture thermique électrifiée. Ce qui est le deuxième point de la grande déception qu'on a eue, c'est que le monde est en train de bouger hors de nous. Et si on regarde ce qui aujourd'hui, en matière utilitaire, s'annonce comme étant le plus novateur et le plus intéressant en termes d'usage, malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait dans les frontières françaises, ni même dans les frontières européennes. Et les plus pushy et les plus inventifs sur le sujet, ben, ils sont là où nous montrait M. Bélanger tout à l'heure, en Asie, avec des répartitions de chaînes de valeur qui se font entre la Corée, le Japon et la Chine. Et ça, c'est un sujet extrêmement important sur le plan de l'avenir industriel du pays. Non seulement les constructeurs ne sont pas dedans, mais ils sont des gens en retard et il faut les aider. Nous, en tant que clients, en tant que donneurs d'ordre, et quand je dis nous, j'y inclus les acteurs qui, à un moment ou à un autre, peuvent consommer de la voiture, organiser les transports, penser les villes et penser les périphéries des villes, pour qu'on rattrape ce retard et qu'on fasse pression. C'est un jeu collectif qui fonctionne. Pourquoi sur
Tu nous racontes un peu comment...
Oui. Voilà. Donc la façon dont on a travaillé, en fait, a consisté à dire si on fonctionne ensemble, ça va marcher. Pourquoi ? Parce que quand on a fait notre premier appel d'offres, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'offres industrielles. Et il n'y avait pas d'offres industrielles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de demande industrielle. Hein. En gros, nos constructeurs disent, moi, si on avait des volumes suffisants en termes de commandes, alors on pourrait vous tirer des prix d'industriels parce qu'on aurait des chaînes industrielles. Et c'est une affaire très systémique, en fait. Hein. On s'attend. Vous rajoutez autour de ça qu'il n'y a pas de réglementation qui soit véritablement incitative en dehors de nos 5 000 euros à prime à la voiture décarbonée ou à la voiture à faible émission. On a aujourd'hui, il nous manque aujourd'hui encore des choses en termes de réglementation, y compris réglementation urbaine. Il y a des tas de façons aujourd'hui dans les villes de donner une prime sans qu'il s'agisse d'euros à du déplacement propre. Il y a des questions de valeur de parking, il y a des questions de l'accès à des horaires, il y a des questions de voie d'accès aussi, qu'il faut qu'on arrive à mettre bout à bout. Donc cette idée est partie de, ben, puisque c'est comme ça, puisqu'après tout, nous n'arrivons pas à avoir comme ça, stand-alone, des offres qui correspondent à nos besoins, mettons-nous ensemble, à plusieurs, dans un tour de table autour de est-ce qu'on serait prêt et combien serait-on prêt à acheter de véhicules électriques tous mis ensemble. Ce dont je veux vous convaincre, c'est que du fonctionnement collectif, ça existe dans notre pays, même, alors La Poste, on la voit souvent comme un service public et comme quelque chose qui forcément porte en génétiquement le fonctionnement collectif. Enfin, il y a d'autres signatures que vous voyez là, où il y a des cours de bourse qui s'affichent aussi tous les jours sur les micros de leurs salariés. Et il n'empêche que ces patrons-là étaient prêts à prendre un certain nombre de risques, à se mettre autour de la table et à décider d'équiper une partie de leur flotte en voiture électrique. Vous les avez affichés ici. 1. Le collectif, ça fonctionne. 2. Dans la façon dont on a raisonné sur les usages. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour arriver à laisser à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire à ceux qui vont répondre à l'appel d'offres, la possibilité d'inventer. Et pour laisser venir autour de la table des acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs traditionnels du monde industriel. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a un cahier des charges aujourd'hui qui ne définit pas des spécificités techniques, à savoir quel type de batterie, des choses qui déjà fermeraient les réponses possibles, mais on a un cahier des charges qui s'appuie sur de quoi a-t-on besoin, pour faire quoi. Et en raisonnant comme ça, on a un tour de table qui aujourd'hui nous ramène 50 000 demandes, enfin 50, un appel d'offres de 50 000 voitures électriques offres fermes, et on est en train de trouver petit à petit, parce que ce 50 000 est suffisant pour commencer à sortir des prix industriels, on est en train petit à petit de retrouver du monde additionnel, notamment dans toutes les professions qui sont les professions diffuses, qu'il est plus difficile de capter, type artisan, type taxi, enfin tous les acteurs qui rentrent dans les villes ou qui opèrent les villes d'une manière ou d'une autre, de manière à atteindre les 100 000. Ce cahier des charges sur les usages, il part d'un principe qui est ferme, qui calme tout le monde, qui est que le coût complet, donc le coût, ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost Owner, c'est-à-dire une fois que vous avez mis le carburant et que vous avez amorti votre véhicule sur 3 ou 4 ans, le coût complet d'un véhicule électrique ne peut pas être supérieur au coût complet d'un thermique. Donc le cahier des charges est construit comme ça et nous aurons des réponses qui seront conformes à ce cahier des charges.
Comment tu le sais, ça ?
Ça, on le sait, non pas qu'on ait dévoyé les règles en la matière, mais au fur et à mesure qu'on fabriquait le cahier des charges, on a auditionné les constructeurs, des Français, des Européens, et puis des un peu plus loin de nos frontières, sur, en gros, la recevabilité de ce qu'on était en train de faire, aussi bien d'un point de vue technique. Un des grands sujets, c'est par exemple l'autonomie de la voiture électrique, qui est qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, que sur la question du prix. Et donc les constructeurs nous ont répondu qu'on n'était pas, et l'ensemble du monde industriel, qu'on n'était pas en train de faire une lettre au Père Noël dès lors qu'on ramenait des volumes suffisants pour avoir des prix industriels. La question de l'autonomie de la voiture, c'est un gros sujet, et c'est là où on a vraiment parlé d'usage. On a besoin, dans ce cercle-là, d'avoir des voitures qui tirent 150 km d'autonomie.
Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'offre, c'est sur des véhicules du parc de ces entreprises-là, utilitaires, pas de l'entreprise. Hein.
Elle tourne, voilà. On a le cahier des charges embarque de l'utilitaire léger ou de la voiture de service, parce qu'elle peut être équipée avec 4 fauteuils passagers, donc de la voiture de véhicule de liaison, mais on est pour démarrer sur des flottes captives. Hein, on n'est pas en train de parler, là en tout cas tout de suite, d'une offre grand public, même s'il est assez probable que les premières offres grand public que feront les constructeurs s'inspireront grandement de ce qu'ils auront mis au point et développé avec nous sur les véhicules utilitaires. Vous savez que la Kangoo, par exemple, que l'on s'arrache aujourd'hui, enfin qu'on s'arrache, qui se vend très bien aujourd'hui à titre privé, hein, la Kangoo, c'est les postiers qui l'ont mis au point, enfin les facteurs. Hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Le chaînage de tous les petits trucs qui plaisent beaucoup autour des rangements et de la fonctionnalité de cette voiture. Donc aujourd'hui, effectivement, on adresse un parc utilitaire, un parc de voitures de liaison, de voitures de service, avec une autonomie de 150 km sur ce
circuit.
Oui, 150. 150 km. Ça a été, c'est une contrainte forte, parce que si on ne faisait pas ça, on serait pour le coup dans la lettre au Père Noël dont parlait Olivier tout à l'heure. Hein. C'est juste pas possible aujourd'hui, au sens abordable en termes de prix, technologiquement c'est possible, mais abordable en termes de prix, d'avoir des voitures électriques qui remplacent les voitures thermiques dans leur fonction multi-usage. Mais on s'est aperçu aussi, en faisant travailler l'ensemble de ce tour de table, que sur nos véhicules utilitaires, on avait une quantité, nous à la Poste on le sait puisqu'on l'étudie, on le maîtrise tous les jours, on a une quantité extrêmement importante de véhicules qui ne font pas plus de 150 km par jour. Ça n'est pas négligeable. Pour la Poste, ça représente 10 000 voitures. Pour EDF, ça représente plus de 5 000 voitures. Pour le tableau d'honneur. Pour Veolia, ça représente plus de 5 000 voitures. Pour GDF Suez, plus de 3 000 voitures. Et c'était un peu leur grande surprise de découvrir que lorsqu'on regarde à quoi servent les voitures, finalement, ce n'est pas à tant de kilomètres que ça. Autre élément important du cahier des charges, vous avez une image de la voiture électrique qui est que ce n'est pas une vraie voiture. Ça, c'est très répandu d'une manière collective, ce qui est complètement faux. Si certains d'entre vous en ont déjà conduit, moi pour en conduire, je peux en témoigner, la voiture électrique est une voiture puissante. Élément du cahier des charges, elle doit pouvoir se réinsérer dans un circuit urbain, dans un flot urbain, puisque le facteur il redémarre, j'allais dire très vite, non, conformément à la réglementation, mais il faut qu'il se réinsère dans un. Il s'arrête et il repart, et donc il faut qu'il ait une capacité d'accélération. La voiture électrique, elle a un très joli couple. Donc c'est une voiture qui est puissante, ça c'est le premier point. C'est une voiture où on va veiller à ce que la question de l'interface homme-machine soit bien traitée, parce que l'autre obsession, c'est la peur de la panne sèche. Donc on a aussi traité ça dans le cahier des charges via des usages, en veillant à ce qu'il y ait une réserve, après à charge aux industriels de répondre sous quelle forme, une réserve qui permette de rassurer le chauffeur sur le fait que il a soit en visibilité, soit en capacité, soit par le service après-vente, enfin le service ou la maintenance qui lui est offerte sur le territoire en question.
En gros, c'est une bonne essence que beaucoup ont encore, apparemment on devrait en avoir, mais qu'on utilise
ouais,
jamais,
c'est ça,
mais
voilà.
Si on l'a pas, on n'est pas
assez. Ça peut prendre exactement plusieurs formes. Ça peut être une réserve électrique avec une batterie, ça c'est au constructeur de nous le dire. Ça peut être du dépannage, ou tout simplement le réseau qui nous prend en charge assure que dans le quart d'heure, comme on est sur des villes et donc des lieux d'opération assez resserrés, il y a remplacement immédiat de la voiture. Il y a des tas de façons de faire. Ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'en revanche, on nous mette en moteur thermique et qu'on revienne sur l'hybride. Hein, parce que ce n'est pas ça le but du jeu. Ce n'est pas de se retrouver avec une double motorisation. Une double motorisation, je ne sais pas comment on fait pour avoir un TCO équivalent entre un thermique et une voiture hybride où vous avez les deux. Ça, c'est très important. Pour vous rassurer là-dessus, les facteurs ont des voitures électriques depuis très longtemps. On a, vous verrez dans le doc, on a une longue tradition de voitures électriques. On en a eu jusqu'à plus de 600 hein, dans le monde postal. Quand on les a retirés aux facteurs, c'était du nickel cadmium, donc c'est devenu interdit et on a été obligé de les retirer. Ces 600 voitures, quand on les a retirées aux facteurs, ils étaient furieux. Hein. Vraiment furieux. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui ne pose pas de problème à maîtriser et à conduire. Et la réticence que vous avez au départ du chauffeur qui a peur de tomber en panne ou qui a peur de ne pas piloter une vraie voiture est quelque chose qui très vite disparaît. Donc ce groupe aujourd'hui continue à avancer. Olivier a embarqué avec lui une partie de notre collectivité et qui est un élément extrêmement important hein, de notre point de vue, aussi bien pour éventuellement passer des commandes sur ce cahier des charges que pour raisonner en systémique, parce que ce marché n'émergera véritablement que lorsque vous aurez aussi dans les villes pris un certain nombre de décisions et été acteur de la valeur de ce marché. C'est une question de mobilité dont on parle. Et la question de la mobilité des marchandises, de la mobilité des personnes, c'est deux phases différentes du même problème. Hein. Les gens se déplacent pour aller faire les courses ou on leur amène les courses, la marchandise dans les villes. Et c'est ça dont on cause. Hein. Une fois c'est individuel, une fois c'est collectif. Mais c'est ce jeu-là qui est en train de se produire. Donc l'objet double ici, c'est un, de vous faire prendre conscience, si tant est que ce soit nécessaire, hein, de ce rôle que vous jouez dans la façon dont vous réglementez, dont vous pensez une ville et dont vous allez petit à petit, à mon sens, devoir penser la ville opérée d'une manière logistique propre. Moi, je suis persuadée que nos concitoyens, enfin nous en tant que concitoyens, on aura à un moment un niveau d'exigence sur nos villes qui est qu'on veut pouvoir y respirer et y vivre aussi. Et qu'il va falloir trouver un moyen d'opérer en termes d'approvisionnement en marchandises aussi les villes de manière propre et rationalisée. Et par ailleurs, vous convaincre de ce que vous pouvez, si ça vous intéresse, vous joindre. Alors après, je ne sais pas sous quelle forme. Hein. Olivier va rester un petit peu si à un moment vous voulez plus d'infos. Vous joindre à cet appel d'offres. On a commencé maintenant la fabrication de comment on va instruire ça en termes de politique achat. L'UGAP est dans la boucle. Nos services achats sont dans la boucle. Donc d'une manière très opérationnelle, on va commencer à discuter maintenant avec les constructeurs pour avoir les réponses que l'on attend et s'organiser en matière de politique achat de la façon dont on attend. Ça a quand même bougé du côté réglementaire autour, puisqu'on a eu le 1er octobre les résultats de ce qui avait été amorcé au moment des états généraux de l'automobile. Et qu'on voit sortir aujourd'hui en matière d'infrastructure, notamment, qui est un très gros sujet de l'émergence du véhicule électrique. Donc voilà le panorama général de ce que l'on sait faire, à quel prix on sait le faire, et tout ça, ce sera pour 2011. Nous, La Poste, on aura des voitures électriques un peu avant, parce qu'on avait par ailleurs lancé un appel d'offres sur 500 véhicules qui sont en train de tourner aujourd'hui, et les offres industrielles seront là en 2011.
Bon, merci Marianne, je vais peut-être si tu as une contrainte, donc je vais y aller, parce
oui.
que je vais pouvoir répondre
Vous n'avez pas une image de la voiture du postier là, électrique?
C'est une Kangoo.
Ouais.
Aujourd'hui c'est une
Kangoo. C'est une Kangoo.
Oui, c'est ça, je vous ai dit, c'est vraiment
ouais.
pas une Kangoo. Elle ressemble à une Kangoo ou elle ressemble à un Berlingo. En fait, ils nous prennent des voitures thermiques et ils démontent le moteur, pour vous donner une idée de à quel point la chose n'est pas pensée dans le bon sens. Hein. il démonte le moteur et il bascule sur une motorisation électrique en rajoutant les batteries et le hélice. Donc c'est ce que vous allez voir dans la rue, ça ressemble à un berlingot ou à une kangoo. Et probablement qu'en 2011, ça aura encore cette tête-là. Alors nous, on en a des tas d'idées dans les labos, hein, nous. C'est là où les clients sont parfois plus innovants que leurs fournisseurs. Nous, on a des tas d'idées, notamment de carrément faire disparaître le moteur, le placer dans la caisse, qui vous laisse tout l'espace ensuite à utiliser, parce qu'on a une énorme perte d'espace. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de charger au maximum. Hein. Donc, on peut récupérer énormément d'espace si on déplace. Tout ça, ça peut évoluer assez considérablement. Et les Asiatiques bougent beaucoup là-dessus. Michelin aussi bouge beaucoup là-dessus.